Radio Okapi. Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur la toute la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la toute la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la toute la semaine, nous recevons ici au studio John Kanyunyu, il est correspondant de la radio allemande Deutsche Welle. Bonjour John Kanyunyu.
Bonjour Guy Maté et bonjour à tous les intervenants dans cette émission d'aujourd'hui.
En ligne, Luc Loutala, il est membre de la société civile, il est analyste politique électorale, il est également président de l'ONG Espoir pour tous et directeur du centre régional d'expertise et de management électoral et des droits civils et politiques, CREME DCP en sigle. Bonjour Luc Loutala.
Bonjour Monsieur Guy Maté.
Et aussi en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Batman, elle est journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal Le Soir. Bonjour Madame Colette Batman.
Bonjour.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur la toute la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de John Kanyunyu, il est correspondant de la radio allemande Deutsche Welle. Luc Loutala, membre de la société civile, il est analyste politique et électoral. Il est également président de l'ONG Espoir pour tous et directeur du centre régional d'expertise et de management électoral et des droits civils et politiques, CREME DCP en sigle. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Batman, elle est journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal Le Soir. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir les sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Kabila, débat sur la réforme constitutionnelle en RDC, et enfin les paradoxes entre les préoccupations politiques et les besoins réels des Congolais. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur la déclaration du chef de l'État au sujet des élections de 2028. En effet, lors de la conférence de presse organisée à marge de la Journée internationale de la liberté de la presse, le mercredi 6 mai à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a affirmé qu'il ne serait pas possible d'organiser les élections prévues en 2028 si la guerre dans l'est du pays n'est pas terminée. C'était lors d'une conférence de presse tenue mercredi 6 mai à Kinshasa. Si nous ne parvenons pas à mettre fin à cette guerre, malheureusement, il ne sera pas possible d'organiser les élections en 2028, a affirmé le chef de l'État. Félix Tshisekedi a justifié cette position par la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, toujours touchées par les conflits armés. Selon lui, organiser un scrutin dans ces conditions serait techniquement et politiquement difficile, voire impossible. Comment est-ce qu'on va organiser des élections sans le Nord et le Sud Kivu, s'est-il interrogé. Pour illustrer son propos, le président congolais a cité la situation en Ukraine où les élections ont été suspendues depuis 2 ans en raison de la guerre. Il a estimé que la communauté internationale comprend ce type de décision lorsqu'un pays est en situation de conflit armé. John Kanyunyu, comment vous réagissez à cette déclaration du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au sujet des élections de 2028?
Merci beaucoup Guy Maté. Avant de répondre à votre préoccupation, je m'avais présenté mes condoléances aux familles éprouvées par le massacre qui a eu lieu hier vers Biakato, c'est en Ituri, et avant-hier à Beni, au territoire de Beni, c'est au nord Kivu, des massacres qui semblent ne pas retenir l'attention des autorités et aussi des notables de la région, parce que jusque-là, aucun député national ni provincial ne s'est prononcé par rapport à cette situation qui consume la population, qui consume les habitants, qui consume les cultivateurs. Alors, je me joins aux familles des victimes pour présenter mes condoléances. Pour revenir maintenant à votre préoccupation, nous avons tous suivi le chef de l'État. Il a parlé de l'Ukraine. Et moi, je pense que pour tout observateur politique et social de la situation de notre pays, est conscient que c'est difficile d'avoir des élections générales en République démocratique du Congo en 2028. Tout le monde qui est conscient, tout le monde qui est réfléchi, le sait bien. Parce qu'il y a des justifications. Tous les moyens sont canalisés vers les opérations, sont canalisés
mais les
vers
l'armée. Mais le chef n'a pas dit qu'il n'y a pas de moyens. Il a dit que les ressources sont là.
Non,
mais c'est un problème de sécurité.
Mais Guy, nous avons tous suivi l'actualité. Le président de la CENI, M. Kadima, l'avait ouvertement dit que c'était difficile d'organiser des élections parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ça, c'est connu par tous.
Et mais la raison qu'évoque le chef de l'État ici, c'est la sécurité.
Oui, la sécurité. Tout le monde sait qu'il se pose un grand problème de sécurité dans la partie orientale de notre pays. Mais comparer la situation de la RDC à celle de l'Ukraine me paraît un peu trop risqué parce que en Ukraine, même la capitale est touchée. Et en Ukraine aussi, c'est la Russie qui agresse l'Ukraine. Et la Russie ne s'est pas cachée derrière une rébellion quelconque. Mais par contre, chez nous, le Rwanda nous agresse, mais il y a quand même une rébellion, la FCM-23. Donc, je pense que ce sont deux situations différentes. Ça, c'est de un. De deux, je pense que même, parce que c'est le sujet que moi j'ai proposé, comme vous le savez, sur le changement de la Constitution. Alors moi je me dis, s'il n'y a pas d'élection, et que certains veulent qu'on change la Constitution pour permettre au chef de l'État de terminer cette guerre, parce que maintenant, l'organisation des élections est conditionnée par la fin de la guerre. Qui sait que la guerre va se terminer demain? Parce que, avec mon expérience, ça fait 27 ans que je couvre la guerre. Je sais que on connaît quand la guerre commence, mais on ne connaît pas quand elle se termine. Alors, cette guerre ici profite à qui, finalement? Donc, la population, aujourd'hui, peut se poser cette question. Et je pense qu'il y a certains acteurs politiques de notre pays qui se trompent. Hein, surtout à Kinshasa, quand vous écoutez certains acteurs politiques dire des choses. Et certaines gens pensent que la RDC, c'est seulement Kinshasa. Non, l'opinion de la population kinoise n'est pas celle de la population katangaise, kivusienne et autres. Donc, moi, je pense que le président de la République s'est prononcé. Donc, pour moi, il a préparé les esprits que non, en 2028, il n'y aura pas d'élection. Donc, vous n'avez pas besoin de vous agiter. Donc, on va continuer sur le sujet du changement ou de modification de la Constitution. Mais bref, le chef de l'État a tranché. Il n'y aura pas d'élection en 2028.
Merci Luc Loutala, vous êtes expert en matière électorale. Conditionner la tenue des élections par la fin de la guerre, si cet argument peut être défendable, quelles pourraient être ses implications, n'est-ce pas, sur la légitimité des institutions?
Oui, mais tout justement, est-ce que organiser des élections dans un contexte de guerre ou d'insécurité majeure constitue en soi un défi réel pour n'importe quel pays? Même dans plusieurs pays du monde, comme l'Ukraine qui est citée en exemple, les contraintes sécuritaires ont profondément affecté parfois le fonctionnement normal de calendrier démocratique. Mais il est important de retenir que pour la RDC, la vraie question n'est pas seulement électorale. Elle concerne surtout la confiance des citoyens dans les institutions et dans la capacité de l'État à gérer simultanément la sécurité, la gouvernance et la continuité démocratique. Alors, il est important de voir que on peut arriver en 2028 comme c'est annoncé et qu'il n'y a pas d'élection. La conséquence, c'est quelle sera la légitimité des institutions en place? Comment justifier la continuité des institutions et du pouvoir? Ça reste toute une question qui ouvre la boîte à Pandore sur l'inconnu de la légitimité, et c'est là le vrai enjeu.
Merci. Merci, Madame Colette Blackman. Cette déclaration du chef de l'État intervient en plein débat sur la Constitution. Peut-on établir un lien entre les deux faits?
Mais je crois que le chef de l'État est très habile d'une certaine façon, parce que organiser des élections, si tout l'est de Goma jusqu'au Bukavu et plus loin encore échappe aux élections, au travail électoral, ces gens n'auront pas voté, et donc il y a une énorme partie de la population qui ne s'est pas prononcée, et donc il sera difficile de considérer ces élections comme valides. Donc là, il a raison. Par ailleurs, dire qu'on va attendre que ça se règle et que le pays soit réunifié pour faire les élections, ça c'est un ticket pour rester au pouvoir encore pendant plusieurs années après l'expiration du délai légal. Donc c'est un piège qui est très habilement tendu, mais je ne vois pas très bien comment on peut en sortir, parce qu'il y a quand même une certaine logique dans cette position.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Boayo de Samangwana dans Tiers Monde Coopération et on se retrouve juste après. Boayo de Samangwana dans Tiers Monde Coopération. On rappelle que Samuel Mangwana, dit Samangwana, a totalisé 81 ans au mois de février dernier. On revient à l'actualité cette semaine. Les États-Unis d'Amérique ont imposé des sanctions à l'encontre de l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila. Il accuse de chercher à déstabiliser le gouvernement de la RDC en soutenant l'AFC-M23 qui occupe une partie dans l'est du pays, indique un communiqué du département d'État des États-Unis publié le 30 avril dernier. Selon Washington, le M23 est un groupe armé soutenu par le Rwanda opérant dans l'est de la RDC et l'ASC agit comme sa coalition politico-militaire cherchant à renverser le gouvernement de la RDC. S'exprimant à ce sujet, le mercredi 6 mai devant la presse à Kinshasa, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a estimé que les sanctions prises par les États-Unis contre Joseph Kabila sont fondées, les reliant notamment à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ces sanctions se justifient, les Américains n'ont vu que ce que moi j'avais vu depuis plusieurs années, a affirmé le président de la République. De son côté, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, rejette vivement les sanctions prises à son encontre par les États-Unis. Dans un communiqué rendu public le même jeudi 30 avril, son cabinet a qualifié cette décision d'injustifiée et politiquement motivée, dénonçant des accusations qu'il estime non fondées. Madame Colette Blackman, vous êtes journaliste qui avait, n'est-ce pas, travaillé pendant longtemps pour le journal Les Soirs. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler justement des sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Kabila. On vous écoute.
Oui, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que ça me paraît une espèce de tour de précipitation, parce que tout d'un coup, on peut parler après des responsabilités de Joseph Kabila. Mais en tout cas, à première vue, maintenant, il est désigné comme l'ennemi principal. Donc c'est une précipitation, parce que le président Kagame, qui a longtemps été désigné comme le grand responsable de la déstabilisation de l'Est, de l'occupation, de la ponction des matières premières, etc., tout d'un coup, on n'en parle plus. Miracle, il a disparu et l'ennemi public numéro un, c'est devenu Joseph Kabila, qui tout de même est congolais, qui a été président, qui a réussi à réunifier son pays en 2001, qui a exercé le pouvoir. Tout d'un coup, c'est lui qui est devenu responsable de tous les maux et cible des sanctions. Donc là, il y a un tour de magie qui s'est opéré. On ne parle plus de Kagame, on désigne Kabila. Cela dit, l'animosité des Américains à l'égard de Kabila s'explique aussi pour d'autres raisons. Je pense que personne, ni en Europe, ni aux États-Unis, n'a oublié que Joseph Kabila, je crois que c'était en 2016, s'est tourné vers la Chine et c'est lui qui a ouvert à la Chine les immenses richesses du Congo. Les Chinois ont pris pied en Afrique centrale dans ce qui était considéré comme le lieu de l'Europe privilégié, un accès privilégié pour la Belgique d'abord, pour l'Europe ensuite et les Américains dans la foulée. Le Congo a toujours eu une relation très spéciale avec l'Occident et avec les États-Unis pour cause d'exploitation des matières premières. Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte aux investissements chinois. Les Chinois, il faut reconnaître qu'ils ont débarqué massivement. Ils se sont installés au Katanga et ne seront pas si faciles à déplacer. Et donc, il y a une sorte de rancune non exprimée mais latente contre Joseph Kabila, l'homme qui a ouvert la porte à la Chine. Et donc, c'est aussi, à mon avis, plus que des allégations comme quoi il aurait soutenu le M23, c'est un peu sa responsabilité dans les accords avec la Chine qu'il doit payer aujourd'hui.
Oui, Madame Colette, Kabila a toujours affirmé qu'il n'est pas lié à cette rébellion, mais dans sa récente interview dans un média, Paul Kagame, le président rwandais, a révélé qu'il avait autorisé Kabila à passer par le Rwanda pour aller à Goma afin de régler ses problèmes avec le président Tshisekedi. Comment vous comprenez ces deux déclarations?
Mais là, je trouve que Kagame a probablement raison. Kagame a évidemment autorisé Kabila à traverser le Rwanda ou à passer un certain temps au Rwanda et de là aller à l'Est. Kabila n'a pas fait ça sans le feu vert de Kagame, qui a dû être bien content d'avoir un allié tout d'un coup qui le rejoigne. Voilà. Mais il faut aussi, et alors je pense que, enfin ça c'est mon point de vue, mais que Kabila a fait une erreur, étant donné son passé, le passé de sa famille, les luttes de son père qui était un nationaliste, qui a toujours refusé de céder le Congo, qui s'est battu contre l'invasion du Congo, qui a mené les deux guerres, etc. Kabila lui-même, qui a réussi à réunifier le pays, il est allé donner l'impression qu'il pactise avec les agresseurs, avec ceux qui veulent l'occuper, exploiter l'est du pays. Alors quand ses partisans disent qu'il ne pouvait plus aller nulle part au Congo, il était banni parce que Tshisekedi l'avait interdit de séjour, ce qui est vrai, il fallait bien qu'il aille quelque part. c'est vrai, mais en même temps, aller dans la zone occupée et risquer de se faire désigner comme le principal soutien du M23, alors qu'on sait très bien que le principal soutien, ce n'est pas lui, c'est le voisin rwandais, et je pense qu'il a fait une grosse erreur, une erreur de nationaliste, une erreur de patriote, et même une erreur de calcul politique pour son avenir politique. D'une certaine façon, il s'est coulé lui-même, quoi. Il n'a même pas besoin qu'on le mette à l'index, il s'est coulé lui-même.
Mais dès là, elle est liée à la rébellion, ça peut être logique.
Bah, je crois qu'il a utilisé la rébellion simplement parce qu'il pouvait aller physiquement, il pouvait aller à Goma, comme il disait dans son interview, j'ai une maison là-bas, et bon, il a des maisons partout, mais en tout cas ailleurs, il ne peut pas aller, il pouvait encore aller à Goma, il a foulé, si vous voulez, le sol du pays natal, ça c'est le minimum que l'on puisse dire. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Je répète, c'est une erreur, parce que de toute façon, quand on connaît la situation à l'Est, ce n'est jamais Kabila qui va diriger le M23, c'est pas lui qui tient les rebelles, c'est pas lui qui va décréter la poursuite ou la fin de la guerre. Le centre de décision est ailleurs. Tout le monde sait que le centre de décision, il est à Kigali, avec les complices du M23, mais il n'est pas entre les mains de Kabila. Donc il a vraiment... Il s'est jeté dans la gueule du loup, si vous voulez. Il a donné des prétextes à Kinshasa pour l'ostraciser. Voilà, je pense que là, c'est une erreur politique et c'est une erreur aussi en tant que nationaliste.
Merci, John Kanyounou. Vous êtes correspondant de la radio allemande Deutsche Welle. Le cabinet de Kabila a réagi, n'est-ce pas, à ces sanctions, en qualifiant ces sanctions d'injustifiées et politiquement motivées, dénonçant des accusations qu'il estime non fondées. Et vous pensez que le département américain peut se permettre, n'est-ce pas, d'accuser Kabila de déstabiliser le gouvernement de la RDC en soutenant l'AFC-M23, sans pour autant avoir les éléments de preuve sur lesquels il était ses accusations?
Oui, le Trésor américain, il est aussi informé comme les États-Unis. Même le président de la République l'a souligné lors de sa conférence de presse, que non, les Américains sont les plus informés. Et moi, je me dis, comme les gens le disent, certaines langues se délient, disant non, c'était une décision prise à la précipitation, parce que aujourd'hui, tout se met sur les réseaux sociaux. Il y a certains messages qui disent que non, bon, il y aurait mon temps donné pour ceux-là qui donneraient des informations sur les biens de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Alors je me dis, est-ce que c'était une décision prise dans la précipitation? Eux-mêmes savent comment ils ont fait pour en arriver là. Et vous savez quoi, certaines voix disent que non, parce que vous savez, on est journalistes, nous parlons avec certains acteurs politiques, avec certains sympathisants et du pouvoir et de l'opposition. Et quelqu'un m'a fait rigoler, il m'a dit, mais toi, tu penses que Kabila a un compte bancaire? Ça, moi, je ne le savais pas. Apparemment, il a un compte bancaire qu'il utilisait pendant qu'il était président de la République. Je ne sais pas. Bon, c'est celui qui m'a parlé de ça parce qu'il blaguait un peu. Donc, c'est comme pour dire que, pour certains proches de Kabila, ils pensent que ces sanctions ne vont pas tellement l'impacter parce qu'il n'aurait pas de compte bancaire. Mais seulement, c'est celui qui est concerné qui connaît l'ampleur de la situation qu'il attend, parce que normalement il ne peut pas faire des transactions bancaires en dollars, donc c'est compliqué. J'ai suivi l'ancien ministre de la Communication, Lambert Mende, qui parlait des sanctions contre lui, lui qui ne pouvait plus, je ne sais pas, atterrir en Europe et faire peut-être des transactions là-bas. Donc je pense que Kabila lui-même sait l'impact qu'aura cette décision sur sa vie quotidienne, sur son économie. Mais de toute façon, bon, comme je l'ai dit tantôt, voyons voir ce que ça va donner. Mais est-ce que ces sanctions vont changer quelque chose sur le terrain? Si oui, en tout cas, c'est alors une bonne chose. Mais si cela ne va rien changer, bon, je pense que ceux qui ont pris cette décision savent les motifs, les mobiles. Et peut-être avec le temps, on pourra voir clair et puis avoir l'impact ou les retombées de ces sanctions contre Kabila.
Merci. Luc Loutala, membre de la société civile, vous êtes analyste politique et électorale. Vous êtes également président de l'ONG Espoir pour tous et directeur du Centre régional d'expertise des managements électoraux et des droits civils et politiques, CREME DCP en sigle. Ces sanctions viennent d'isoler davantage Joseph Kabila, mais à votre avis, peut-il rebondir? Peut-il se racheter, Joseph Kabila?
Je pense que Joseph Kabila a surpris plus d'une fois. Il est très difficile de savoir quel est l'impact réel que les sanctions vont avoir sur lui. Je pense que ce qui a été dit par les autres co-débatteurs est très important. Mais il est question de noter que Kabila est très peu dans le réseau américain. Il est plus ancré dans le réseau africain et il ne semble pas à ce stade ici que son réseau dans lequel il tourne, depuis qu'il est pourchassé par le régime de Kabila, l'ait lâché.
Le régime de Félix.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose est que, est-ce que l'attitude américaine ne rentre pas dans le contrat entre la RDC et Washington et qui vise plus ou moins à faire des cautions au pouvoir? Parce qu'il faut remarquer que dans cette perspective notamment d'opposition contre la démarche du pouvoir en place de changer ou de modifier la Constitution, il y a une quasi-absence de contre-pouvoir et que le front Kabila avec Sauvons le Congo apparaissait comme le contre-poids qui contrebalançait un peu cette tendance-là. On pourrait faire une lecture diplomatique et se poser la question si les sanctions américaines ne servent pas d'intimidation, d'un signal à tous ceux qui oseraient un tout petit peu s'opposer au pouvoir de Kinshasa. Il reste très difficile d'avoir des données réelles. Quel est l'impact réel des sanctions sur Kabila lui-même? Dans quelle mesure il l'utilise? Dans quelle mesure il survit de cela? Il est très difficile. Je n'ai pas pu avoir personnellement des données fiables qui montrent que le Trésor américain avait des informations qui permettaient de prendre ces sanctions. Et il est très difficile de savoir si Kabila peut rebondir ou n'est pas rebondir. Mais on peut déjà noter que ses soutiens ne se sont pas asséchés. Sauvons le Congo s'est exprimé, son cabinet s'est exprimé. Et au niveau régional, il garde encore des soutiens très notables.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le mercredi 29 avril, les mélomanes congolais ont commémoré la mort d'André Bimiyombalé, ce célèbre chanteur et auteur-compositeur congolais qui a évolué dans l'orchestre Zaïko Langalanga. André Bimiyombalé Mwanawabi nous a quittés le 29 avril 2011 à Kinshasa à l'âge de 59 ans. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'un de ses classiques intitulé Lisapo et on revient juste après.
Soki jambo nanga yekisa mama, soki pe boliko nanga otuna na ye. Nale mama kanisa, bolingo yango ekobangisa nga na motema, likambo yango ekoma songo na lela pokwa na kanisa. Bombale bolingo ya misoro, ekoma na motema nzoka suka likambo. Potala ya pamba, potala miringisa, songeza la boli kerema, de la pota boliko. Mombale boliko ya misoro, ekoma na motema, nzoka suka likambo. Potala ya pamba, potala miringisa, songeza la boli kerema, de la pota boliko. Potala ya pamba, potala miringisa, sokeza la boli kelemba, tena pota boliko. Ombale boliko ya misoro, ekoma na motema, zoka suka likambo. Potala ya pamba, potala miringisa,
Okay.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la déclaration du chef de l'État au sujet des élections de 2028. Nous avons également analysé les sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Kabila. Participe à cette émission, John Canini, il est correspondant de la radio allemande Deutsche Welle. Luc Loutala, il est membre de la société civile, il est analyste politique et électoral. Il est également président de l'ONG Espoir pour tous et directeur du centre régional d'expertise des managements électoraux et des droits civils et politiques, CREME DCP en sigle. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann, elle est journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal Les Soirs. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a abordé plusieurs sujets politiques majeurs mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa, lors d'une conférence de presse organisée à marge de la Journée internationale de la liberté de la presse. Parmi les points les plus marquants, le chef de l'État n'a pas exclu la possibilité d'un troisième mandat tout en réaffirmant son engagement prioritaire pour la stabilité du pays. Félix Tshisekedi a tenu à clarifier sa position sur la question sensible de la succession présidentielle. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous l'ai dit, si le peuple veut que j'aie un troisième mandat, j'accepterai, a-t-il déclaré. Il a toutefois insisté sur son objectif principal, le retour de la stabilité et de la dignité de la RDC. John Kanyunyu, vous avez souhaité nous parler justement de ces débats sur la réforme constitutionnelle en RDC. On vous écoute.
Merci beaucoup Guy Maté. Aujourd'hui l'actualité c'est le changement de la constitution parce qu'à un moment donné c'était la révision. Mais le langage a changé, on est passé maintenant au changement de la constitution. Et comme vous l'avez souligné dans la conférence de presse du président de la République, il en a parlé aussi. Et ce qui est vrai c'est que bon, la constitution elle-même prévoit sa révision. Donc il y a des articles qui prévoient cette révision. Et je me suis penché sur l'article 218 de la Constitution qui parle de l'initiative qui appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, conseil des ministres donc, à chacune des chambres du Parlement, moitié des membres, ou à une fraction du peuple, 100 000 personnes, donc voilà les signatures qui ont déjà été récoltées. La procédure est simple, la proposition est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre, l'adoption. Donc la révision en question est adoptée par référendum ou par le Parlement réuni en congrès à la majorité des 3/5 des membres. Alors, cet article ici, 218, est encadré par les articles 219 et 220. Il y a une interdiction formelle en cas d'état de siège ou état d'urgence et l'intangibilité de la forme républicaine et du mandat présidentiel. Alors, revenons à ce qu'a dit le président de la République sur la non-organisation des élections en 2028 et tout en parlant de la modification de la Constitution. Et vous savez quoi? Il a fait une anecdote. Il a dit, il ne dirige pas l'UDPS, mais il en est président, bien que ses fonctions actuelles ne lui permettent pas d'exercer comme président du parti politique. Mais il a dit, il a rappelé aux Congolais ce que l'IDPS avait dit à l'époque. Il avait dit, l'IDPS avait dit, lorsqu'on accédera au pouvoir, on changera cette constitution. Ça, c'est un message que le président de la République a fait passer, bien que c'était dans une sorte de blague. Mais du coup, on a revu la vidéo de son feu père, Étienne Tshisekedi, qui parlait de cette constitution qui sera changée une fois l'IDPS au pouvoir. Est-ce que on est arrivé à ce moment-là? Seul le temps nous a dit plus.
Et maintenant que lui n'a pas exclu le troisième mandat, et donc le débat est ouvert, et comment vous entrevoyez la suite de ce débat? Pourra-t-il aboutir à quoi?
Voilà, j'en arrive, parce que ici, l'article 218 parle des 100 000 signatures. 100 000 signatures qui sont déjà récoltées. Et selon le professeur Mbata, si ma mémoire ne me trahit pas, le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, il a dit présenter cette proposition-là au chef de l'État, bien sûr, c'est ceux des Congolais, selon ce qu'il avait dit, si ma mémoire ne me trahit pas, de la diaspora surtout, qui se sont exprimés là-dessus. Et ils en ont le droit. Alors, cet article ici parle de... Il y a l'interdiction ici.
Quel article ?
Donc, cet article 218. Donc, le référendum ne peut pas avoir lieu si une partie du territoire congolais est sous état de siège. Nous savons tous que le Nord Kivu et l'Ituri sont sous état de siège. Est-ce que c'est le Parlement qui va faire le boulot ? Parce que avec 3/5 pour adopter ces projets, la modification ou carrément le changement de la Constitution, je ne sais pas. Mais
c'est lui qui a décrété l'état de siège, donc il a le pouvoir d'élever, n'est-ce pas, cette mesure ?
Oui, s'il levait actuellement la mesure de l'état de siège, en tout cas moi-même, je me dis à quoi aurait servi cet état de siège ? Parce que l'état de siège était décrété pour permettre aux militaires d'avoir toutes les manettes, d'avoir toutes les commandes sur les opérations et sur la politique. Maintenant, ça fait autant d'années que la mesure est effective, mais j'ai parlé au début, à l'introduction, au début de cette émission, qu'hier, l'ADEF a tué à Biakato, l'ADEF avant-hier a tué en territoire des Béni.
On n'en parlait pas,
mais l'ADEF est actif. Et aujourd'hui, l'ADEF est en train d'étendre...
Les débats politiques éclipsent des questions sécuritaires qui touchent à la population.
Voilà, donc vous comprenez. Donc, si aujourd'hui ou demain, le président de la République levait cette mesure-là sur l'état des sièges, en tout cas, je pense que cette mesure n'aura servi en rien. Merci. Alors, revenons sur la question. Parce que ici à Kinshasa, nous parlons changement, carrément, changement de la Constitution, mais aussi nous oublions, vous savez, en RDC, les informations vont vite avec les réseaux sociaux. J'ai suivi, et il y a certaines de nos sources sur place, sur terrain, donc dans les zones sous contrôle AFCM23, qui nous disent, attention, ici, il y a la collecte des signatures. Et ces signatures-là seront transmises à la communauté internationale. Est-ce que c'est pour l'autodétermination ? Je ne sais pas. Mais même si il arrivait à ce qu'il y ait un forcing, parce que nous avons eu à observer la jurisprudence, en 2018, les élections ont été organisées sans Beni, sans Butembo, sans Yumbi. En 2023, les élections ont été organisées sans les territoires de Rutshuru, sans les territoires de Masisi au Nord Kivu et sans le Kwamuntu. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec cette jurisprudence, on peut organiser le référendum sans les zones sous contrôle des rebelles. Et alors, si eux aussi, si les informations que nous recevons de nos sources, nos différentes sources, s'avéraient vraies, et que eux aussi là-bas se disent, bon, ok, là, ils ont organisé le référendum parce qu'ils ont changé la constitution là-bas, mais nous aussi, on fait l'autodétermination. Est-ce qu'ils vont dire l'État indépendant du Kivu ou je ne sais pas quoi ?
Merci.
Parce que ça se chichote, mais je pense que à un moment donné, comme le président a dit que c'est quasi impossible d'organiser les élections en 2018 sans la fin de la guerre, je pense que les politiciens qui prônent le changement de la Constitution peuvent mettre un peu d'eau dans leur vin pour éviter les conséquences qui peuvent en découler de cette proposition-là du changement
de
la Constitution.
Merci, Jean-Paul. Merci, Luc Loutala. Cette déclaration du chef de l'État, dans laquelle, n'est-ce pas, il n'exclut pas un troisième mandat si le peuple les veut, a suscité des vives réactions au sein de l'opposition. Les acteurs politiques comme Délice Sanga, Claudel Lubaya, des opposants, dénoncent une violation programmée de la Constitution et un risque pour la stabilité démocratique du pays. Comment vous comprenez cette levée des boucliers de l'opposition, Luc Loutala?
Je pense que c'est la levée de bouclier de l'opposition en ce moment ici qui est la chose la plus surprenante, parce que les intentions du pouvoir de changer la Constitution, les intentions du pouvoir de modifier ou de changer la Constitution ne faisaient pas mystère depuis plus d'une année. Ce n'est pas une nouvelle donne. Mais face au pouvoir, la vraie question, c'est le contre-pouvoir. Est-ce que la levée du bouclier de l'opposition en ce moment est susceptible de constituer un véritable contre-pouvoir de contrebalancer la position du pouvoir en place pour l'amener à tempérer. Mais il me semble que la vraie question, c'est dans quelle mesure l'opposition est véritablement un contre-pouvoir capable de contrecarrer les plans du pouvoir en place. Et cela, je pense, c'est au-delà de déclarations qu'il faut le voir. La ligne de changer la constitution, je pense à Lubumbashi où le chef de l'État avait déjà dit que personne ne pouvait l'empêcher de changer ou de modifier cette constitution, n'est pas étonnante du tout. Mais la vraie question aussi, la deuxième, c'est le chef de l'État pose le postulat pas d'élection sans que le pays soit réunifié, mais en même temps, le référendum, c'est une sorte d'élection. Est-ce que le référendum, on va aussi attendre? On revient globalement à une impasse politique, avec la question de savoir dans quelle mesure tout ça va fracturer complètement la cohésion nationale et dans quelle mesure est-ce que ça peut être un point de rupture entre le Congo que nous connaissons aujourd'hui et le Congo de demain. Parce que de l'autre côté, on a entendu parler de balkanisation, de soudanisation et d'autres choses. Donc il y a une menace suffisamment réelle. Est-ce que les gens qui sont à Goma, qui sont en train de travailler pour créer une administration complètement parallèle, comment vont-ils accueillir? Et sur le plan de la légitimité, que ce soit référendum ou élection, le Nord, le Sud Kivu, des contrées qui seraient oubliées, qui ne participeraient pas, dans quelle mesure est-ce que les populations seraient concernées? Dans quelle mesure est-ce que Kinshasa perçoit? Et c'est là le vrai enjeu. Je ne semble pas percevoir du côté de Kinshasa une vraie vision ou un calendrier de réunification. On pourrait mettre le plan de dialogue qui était en marche comme un pont entre les deux côtés et qui aurait pu faciliter la tenue des élections dans le délai, mais on a l'impression qu'on est face à une cristallisation des positionnements et le pouvoir tient absolument à appliquer son plan. Mais comment ça va être de l'autre côté? C'est ça la grande inconnue. Quelles vont être les réactions maintenant dans le fait, dans le balancement, dans l'activité du contre-pouvoir? Qu'est-ce qui va se dérouler concrètement? C'est ça qui reste la vraie inconnue, à mon avis.
Merci, Madame Colette Pacman. Le chef de l'État dit, je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous l'ai dit, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Et à votre avis, quelle est l'opportunité d'une telle déclaration aujourd'hui, Madame Colette Pacman?
Mais il prépare son avenir et d'une certaine façon, il a bas ses cartes, quoi. Il est évident qu'il a envie de rester au pouvoir et qu'il utilise tous les arguments qu'il peut, y compris son alliance maintenant avec les Américains. Et si vous me permettez, vu mon âge, parfois j'ai l'impression que ce sont des discours que j'ai déjà entendus d'un homme indispensable, un homme qui va rétablir l'unité du pays, etc. J'ai déjà entendu ça du temps de Mobutu. Et il y a un certain rappel, quoi, où Mobutu, il avait évidemment lui aussi réunifié le Congo, mis fin à la guerre, il était le grand pacificateur, et puis il est resté au pouvoir le temps que l'on sait, de la manière que l'on sait, et je me dis que ce chef d'État actuel, au moins sa famille a connu Mobutu. Son père a été ministre de Mobutu quand il était jeune, il a vu ce type de régime, et peut-être qu'il n'en veut pas, mais sans le savoir, il est imprégné de ce souvenir-là, et que peut-être c'est vers là qu'on pourrait se diriger. C'est une hypothèse, hein. Je ne voudrais pas me montrer injurieuse à son égard, mais c'est une possibilité, une espèce de pouvoir fort qui se construit sur la dénonciation de la menace étrangère, sur le ostraciser des personnalités comme Kabila et bien d'autres opposants, des arrestations arbitraires, etc., l'intimidation de la classe politique. Je m'excuse, mais tout ça a aussi un air de déjà-vu au Congo, et ça c'est dangereux. Et ce qui existe aussi, c'est une résistance populaire. Malgré tout, il y a des gens qui s'expriment, qui ne sont pas d'accord. Pour l'instant, je trouve qu'ils ne sont pas encore extrêmement nombreux, mais il faut se méfier parce que ça peut changer.
Merci. On fait une petite pause en écoutant Elou de Jean Goubal, et on se retrouve juste après.
Papa chéri, il y en a beaucoup qui se bombent. Narcisse Bokuma, et le copino de la casse.
Na kiona bulinguya solo mama bulinguya nam yelele ayelele
suzima njiku
kelu sangama ngana lingaka yo tangu nyoso siko kanisa yo na kumi nakai soko lingaka nga impena yebite soko banga kanga na muslima na yo elue 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 yango na kulinga lenga.
Noel Pea
Amulea solo Yeba kao de lue Mule manangayo Mabasu mangayo Yayo kito kwa soto Yaminto solikulu Oyo ya mule maya Santa Maria unte Longo nyana zambe Sena mama butayo Umuibuanga buisolo Soki mtana zandiyo Yango na kubanga, yango na kulinga lenga Iyelelele
Makashika atanga
Amu Kulingu Ngambu yante Kuimi yango soke zarakite Mele seki Sanga na bube Yeruo Salakti marangai Unanikio Ataba nipo na yoneluwe Ataba zilima lukankama Yeba kete ngana ingaka yonwewe Lenga lenga Iyelelele
L'Office Manzanza Isi Amida Na Adizire Bukasa La Rebetele Mokwe Saka Bien Amu
Elu elu Nalingiyo Ma fleur d'amour Ena kuzela seyo
Vladi Bamba Jérémy Espetta Elie Jonathan Kimbembe Papa bien Donc il ne veut les poissons
Ilo ba yo kobonzela Elu kosela Ma frère bon Yotali Tananga Ile kobito sambela Yawe Alakisa yondela Eye soranda na yo.
C'était Elou de Jean Ngoubal Kalala. Je rappelle que nous avons dans cette émission John Kanounou, il est correspondant de la radio allemande Deutsche Welle. Luc Loutala, membre de la société civile, il est analyste politique et électoral. Il est également président de l'ONG Espoir pour tous et directeur du Centre régional d'expertise et de management électoral et des droits civils et politiques, CREM DCP en sigle. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal Le Soir. Luc Loutala, vous avez souhaité nous parler du paradoxe entre les préoccupations politiques et les besoins réels des Congolais. On vous écoute.
J'ai choisi le thème de paradoxe congolais, une classe politique qui est focalisée sur les institutions pendant que les citoyens attendent des réponses sociales et économiques. En fait, quand on observe l'actualité congolaise, on remarque une chose frappante. Le débat national est surtout dominé par des questions politiques et institutionnelles, alors que les préoccupations quotidiennes des citoyens restent largement économiques et sociales. Le Congolais moyen, lui, il parle du coût de la vie, de l'emploi, de l'insécurité, et on a entendu tout à l'heure la situation des l'Ituri, de l'accès à l'eau, à l'électricité, du transport en commun, de l'éducation. Mais l'espace médiatique et politique reste happé complètement par les luttes du pouvoir, ce qui expose un paradoxe. D'une part, on a l'hyperpolitisation du débat politique autour des débats constitutionnels, des sanctions internationales, des alliances politiques, des calculs électoraux, des tensions entre les camps politiques, de la conquête des institutions, du positionnement. Bon, ces questions restent importantes en soi, mais elles occupent parfois tout l'espace au détriment des enjeux de transformation réelle. Et de l'autre côté, on a les priorités réelles des citoyens qui résident dans des réalités concrètes comme le chômage des jeunes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 300 000 jeunes diplômés qui sont versés sur le marché chaque année, et que on a un taux d'absorption de ces jeunes qui reste très très faible. On a l'inflation, l'insécurité dans les grandes villes, comme à l'est du pays. On a l'état des routes qui est dégradé, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Et puis, la crise de notre système éducatif qui forme de diplômés, mais pas des acteurs capables de transformer l'économie territoriale. Mais en fait, on a une situation dans laquelle la plupart des jeunes qui ont fini l'université se retrouvent happés dans l'économie informelle qui devient dominante et qui impose sa règle. Mais cette situation présente un risque pour tout le pays. Et ce risque réside dans le postulat qui a été observé dans toute l'histoire. Ça veut dire, quand un pays parle davantage du pouvoir plutôt que de la production, davantage des équilibres politiques que de l'économie réelle, ce pays finit par créer une distance entre l'État et la société, entre les institutions et la population.
Alors, comment on peut trouver le juste milieu? Comment peut-on justement concilier les impératifs politiques et les préoccupations réelles du peuple?
Mais il est important, il est crucial, voire urgent de travailler sur une vraie perspective, à savoir que la RDC a besoin de rééquilibrer le débat national. La politique devrait être un instrument au service de la transformation sociale et territoriale. Parce que après, il faut se dire, au-delà de tout ce débat, c'est des débats de stabilité, c'est des débats de constitutionnalité, mais la vraie stabilité viendra lorsque les citoyens sentiront que les institutions améliorent concrètement leurs conditions de vie. Parce que le citoyen congolais aujourd'hui vit une urgence sociale pendant que la classe politique vit une urgence politique. Et la RDC manque pas seulement de stabilité politique, mais ce qui manque le plus, c'est surtout un projet de transformation concrète des territoires et des conditions de vie de la population. Parce que finalement, un pays ne va pas se développer uniquement par des débats à caractère institutionnel, à caractère constitutionnel, mais le pays se développe par sa capacité à répondre aux besoins quotidiens de sa population. Et donc, au-delà de tous les débats, la grande question reste, non pas seulement qui gouverne, qui va gouverner, mais et finalement, qui gouverne pour transformer quoi et qui va gouverner pour transformer quoi? Voilà, à mon avis, l'axe sur lequel il faudrait ramener le débat et l'axe sur lequel on devrait susciter le débat prioritaire.
Merci, Madame Colette Fakman. Comment vous réagissez à cette situation quand vous suivez M. Luc Loutala qui parle du comportement de la classe politique congolaise, n'est-ce pas, qui privilégie les débats orientés vers le maintien au pouvoir, tandis que les préoccupations de la population sont ailleurs, hein, c'est vers l'économie et les sociales. S'il faut faire une sorte de parallélisme avec les politiques en Occident, que diriez-vous, Madame Colette Blackman?
Mais je crois que l'interlocuteur précédent a tout à fait raison de ramener le débat sur des choses essentielles et que malheureusement, au Congo, on a toujours dit que c'était un scandale géologique, mais c'est aussi un scandale social, un scandale dans la répartition des richesses. Quand vous voyez l'état de pauvreté de la population, les conditions de vie, les embouteillages et tout ça, et j'en passe, et le chômage des jeunes, etc., c'est un pur scandale par rapport aux ressources du pays, et les politiciens passent plus de temps à discuter de l'éventuelle révision de la Constitution ou d'enjeux strictement politiques que du sort des gens, quoi. Ceux-là, ils sont en bas de l'échelle et ce sont des activistes de la société civile ou des ONG étrangères, plus ou moins, qui se préoccupent du sort des Congolais. Mais donc là, il y a un fossé et ça, un jour, ça risque d'être dangereux parce que ça peut aussi, notamment, ouvrir la voie à quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui peut être un tribun, un homme qui galvanise les foules, un genre Sankara, revenons plus sur le phénomène de Lumumba, c'est trop ancien, mais Thomas Sankara ou un autre, qui mobilise des gens, qui les galvanisent, qui leur promettent des choses concrètes, un avenir meilleur, et là, les gens déçus par les politiciens actuels, écœurés par tous leurs petits jeux, etc., pourraient très bien basculer aussi. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver. Je crois qu'on ne peut pas négliger le bien-être, les exigences de vie d'une majorité de la population. Je pense que c'est, à terme, c'est très dangereux. Et que si on regarde le pays voisin, par exemple le Rwanda, on peut critiquer beaucoup le Rwanda avec sa politique au Congo, etc. Mais la population rwandaise dit, grâce à lui quand même, il a créé certaines choses, on vit mieux et un peu plus de sécurité qu'avant. Et ça, je pense que le Congo devrait en tirer la leçon. Il faut être redevable à l'égard des plus pauvres, ne serait-ce que parce qu'ils sont les plus nombreux et que dans l'hypothèse où ils votent, ils ont le droit de s'exprimer.
Et s'il faut faire un parallélisme avec la classe politique en Occident, est-ce que c'est dit bonnet, blanc, blanc, bonnet, c'est la même chose? Ou alors il y a une certaine différence?
Non, parce qu'en Occident, malgré tout, en Belgique, tous les 4 ans, les gens sont convoqués aux élections et ils se trouvent dans le secret de l'isoloir. Les élections sont organisées où on vote librement et dans le secret et on sanctionne ceux qui nous ont déçus, ceux qu'on n'aime pas. Alors, évidemment, au Congo, il faut des élections correctes, honnêtes et pas le simulacre qu'on a vu l'autre fois où les gens votaient à domicile en mettant des bulletins de vote dans une urne qui était au domicile des candidats. Tout ça, c'était une parodie d'élection. Mais si les gens votent, ils vont s'exprimer, et pas seulement sur des promesses, mais sur des réalités, comme on le fait malgré tout en Occident. Il y a des changements de pouvoir, il y a des changements de majorité, et ceux qui critiquent et qui ne sont pas d'accord, mais ils ont quand même une occasion de s'exprimer et d'essayer autre chose.
Merci, John Kanyunyu. On va finir cette émission avec vous. Comment vous réagissez à cette préoccupation soulevée par Luc Lutala sur les paradoxes entre les préoccupations politiques et les besoins réels des Congolais?
Non, mon compatriote Luc Lutala a tellement raison. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, nous avons des députés qui ont été élus pour représenter la population et parler au nom de la population. Mais ce que nous vivons actuellement, c'est le contraire. Parce que il y a des députés aujourd'hui, excusez-moi, il y a des hommes politiques qui suivent comme des moutons le mot d'ordre de leurs autorités morales. Donc on s'est dit, est-ce que ce sont les autorités morales qui élisent ces députés ou c'est la population qui élit ces députés? Donc ce que Luc a soulevé, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, il y a une fossé entre la population qui vote et ses élus. Donc, j'ai comme l'impression que certains gens, une fois arrivés à Kinshasa, ils se perdent et puis voilà, ils oublient qu'ils sont arrivés à Kinshasa parce qu'ils ont été élus par la population qui souffre. Ceux qui ont été élus pour défendre cette population, ici à Kinshasa et ailleurs, ils font autre chose. Ils font le contraire de ce que veut cette population. Comme la consoeur et la doyenne Colette Brackman l'a dit, bon, nous connaissons comment ça se passe, les élections chez nous. Nous avons assisté à ces élections-là. Mais on s'est dit, à un moment donné, la population aura droit des regards sur ses élus. Et à un moment donné, ce sera ceux-là qui ont été élus qui seront proclamés. Donc, que les politiciens qui passent leur temps pour parler politique, parler, je ne sais pas, constitution, parler autre chose que les intérêts de la population, qu'ils sachent qu'à un moment donné, cette population-là prendra son destin à main et pour leur dire non, vous avez échoué, et donc ils seront sanctionnés, qu'ils le sachent aujourd'hui.
Merci.
Donc ils doivent savoir travailler pour le peuple qui a voté pour eux, et je pense que ceux-là qui font bien leur travail seront gratifiés.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Colette Brackman, Monsieur Luc Lutala et Monsieur John Kanyunyu. Merci aussi à Patrick Kiasongwa et Alain Goy qui étaient à la technique avec la participation de Jean-Claude Nsiala. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Nibé, une autre composition de Bimi Ombalé, une façon pour nous de continuer à nous rendre hommage à l'occasion, n'est-ce pas, de l'anniversaire de sa mort, hommage à cette grande vedette de la musique congolaise moderne qui était Bimi Ombalé Mwana Wabi. On écoute donc Nibé, on se retrouve le samedi prochain. Solo ni ve, poli, 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 poli.
Thank you. na kati ya Marseille.